Ce matin, nous allons réfléchir ensemble, méditer sur la question des dieux et de nos inquiétudes. Et pour cela, il y a un psaume qui est vraiment adapté, c'est le psaume, vous l'avez reconnu? C'est pas marqué, hein? C'est le 121, oui, c'est le psaume 121. Alors nous allons le lire de manière antiphonée, ça veut dire que je vais lire un verset, vous lirez l'autre verset, donc je prendrai le verset impair et je vous laisse le verset pair. Cantique des montées, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Vous êtes comme moi, vous aimez ce psaume? Oui, il fait du bien, hein? Il a été, oui, je crois qu'il y a des cantiques aussi qui ont été écrits autour de ce psaume. En tout cas, je remercie Dieu pour de tels textes. Dans sa parole. Alors, c'est un cantique, donc, comme vous l'avez vu, il est indiqué cantique des degrés. Bon, ce n'est pas le degré d'inclination du soleil, hein. Les degrés, c'est le niveau des escaliers à Jérusalem. Et on le chantait à chaque fois qu'on le montait. Donc, c'est des cantiques de psaume 120 à 134, hein. Et puis, c'était aussi un cantique qui se chantait quand les pèlerins, trois fois par an, se rendaient à Jérusalem. Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est le thème de ce psaume, c'est la sécurité, la bienveillance de Dieu, l'assurance absolue de son action. Et ça devrait réchauffer nos cœurs. Et la question que nous allons poser, le thème que nous allons soulever, c'est Dieu et nos inquiétudes. Hein? Ça, c'est intéressant, hein? Comment est-ce que nous vivons nos inquiétudes? Est-ce que Dieu se soucie de nos inquiétudes? Est-ce qu'il nous abandonne dans nos inquiétudes? Certainement, donc, vous avez noté comme moi un verbe qui revient souvent. Le verbe garder. Il gardera. Celui qui te garde. Celui qui garde Israël, il te garde, te gardera, gardera ton âme, gardera ton départ et ton arrivée. En fait, on devrait mettre le titre, ce psaume, c'est garder, hein, être gardé. Et c'est précieux pour le pèlerin de cette époque de savoir qu'il était gardé. Parce que les routes qui menaient à Jérusalem n'étaient pas des routes sécurisées. Hein. Ils pouvaient rencontrer des tas de dangers, des mauvaises rencontres, des animaux sauvages. Des brigands, des pillards, la crainte de ce que le pèlerin va rencontrer sur la route. Bien sûr, aujourd'hui, on ne vit pas avec cette crainte, même s'il arrive qu'il y a des dangers sur la route. L'insécurité, quelque chose sur lequel le gouvernement se penche pour que nous puissions vivre en paix, hein. Mais malheureusement, il y a d'autres domaines dans lesquels nous connaissons l'insécurité. Il y a des brigands maintenant sur Internet, sur SMS. Alors j'ai reçu peut-être comme moi, hein, vous avez reçu cet SMS qui me disait qu'il fallait absolument que j'achète la vignette Crit'Air, sinon dans les 48 heures je serai, voilà, j'aurai une amende. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis précipité, non pas pour acheter la vignette, hein, mais pour aller voir sur Internet si c'était vraiment, voilà, une arnaque. C'est vraiment une arnaque. Hein. Et lendemain, ils en ont parlé à la radio. Alors les brigands ne sont plus sur les routes que nous côtoyons, mais ils sont sur les routes d'Internet. Hein. Mais quand même, il y a des moments où nous sentons l'insécurité. Les gens manifestent, on peut le comprendre, parce qu'il y a une insécurité matérielle ou financière. Ces retraites qui vont, voilà, avoir plus, voilà, toutes ces questions-là. Hein. Insécurité et soucis par rapport à l'orientation. Les débouchés scolaires, la vie professionnelle, même sentimentale. On peut se faire du souci à ce niveau. Alors, on peut aussi parler de notre santé. Quand on a une nouvelle qui tombe, eh bien, aïe, on commence à gamberger. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Job a compris que inquiéter et s'attaquer, être attaqué par le diable, eh bien, il était quelque chose. Alors, il a compris que voilà, il était dans une mauvaise posture. Mais l'histoire de Job nous explique que Satan, lui, avait saisi l'insécurité matérielle, relationnelle et de santé de Job. Il lui a enlevé cela. En dehors de sa souffrance, Job était quelqu'un qui devait vraiment s'inquiéter. Et le pire, c'est que ses amis ne sont pas venus pour le rassurer. Ils sont venus pour l'inquiéter davantage. En réalité, il existe toutes sortes de dangers qui peuvent nous inquiéter. Et que faisons-nous? Eh bien, nous cherchons une solution. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où va venir ce secours qui va me sortir de cette situation? Et dans la majorité des cas, c'est ce que nous faisons. Nous cherchons un secours. Et nous nous agitons. Et l'angoisse commence à monter. Peut-être la colère, peut-être la déprime. On n'a pas besoin d'être dans des situations absolues pour commencer à nous inquiéter. Rappelez-vous de Agar qui pouvait s'inquiéter parce que Abraham, père de la foi, l'avait laissé dans le désert avec son fils Ismaël. Jean-Baptiste qui était en prison, eh bien, commençait lui à s'inquiéter, à savoir si Jésus était vraiment le Messie. Jean-Baptiste. Et nous avons les disciples d'Emmaüs qui ont suivi Jésus pendant 3 ans. Et qui commençait à être attristé, certainement inquiété. Le texte ne nous parle pas d'inquiétude, mais je pense qu'entre eux, ils devaient s'inquiéter. Qu'allons-nous devenir maintenant? Comment est-ce que nous allons faire? Marthe et Marie. Marthe s'inquiétait de comment est-ce qu'elle allait servir le repas parce qu'il allait avoir des invités. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment recevoir, ça leur fait plaisir, hein? Et d'autres qui sont affolés à l'idée de recevoir. On n'est pas tous constitués de la même manière, hein? Mais dans chacune de ces situations, eh bien, nous sentons l'inquiétude grandir. L'inquiétude, hein, l'absence de quiétude, l'absence de paix. Alors la question, c'est que est-ce que ces situations sont légitimes? Ben oui, les situations sont légitimes. Il y a des situations plus graves. Pour se soulager, on dit, ouais, il y en a qui vivent des choses plus graves. N'est-ce pas? On fait ça, hein? Il y a toujours plus grave, hein? Oui, mais quand même, hein, ça n'enlève pas notre souci. Hein. Mais ce qui peut arriver, c'est que cette inquiétude peut s'avérer improductive dans notre vie et même avoir un effet destructeur. Cette agitation intérieure, on la voit comment? Eh bien, on la voit déjà à notre regard. C'est pourquoi je pense que le psalmiste dit, je lève les yeux. Vous qui connaissez si bien vos proches, quand vous les voyez avec un regard inquiet, vous dites, qu'est-ce qui t'inquiète? On l'affiche même pas, mais ça se voit. Ah bon, qu'est-ce qui te fait croire que je m'inquiète? T'as vu ta tête? T'es inquiet? Eh oui, hein? Voilà, on a beau dire, oui, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? On a beau dire, ça ira mieux demain, hein? On a beau dire que Jésus est avec nous. Et se rappeler que Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire, etc. Mais en réalité, c'est plus fort que nous. Hein? C'est plus fort que nous. En réalité, rien n'y fait. Et vous savez, nous déplorons des fois notre foi. Nous disons, oh là là, est-ce que j'en suis vraiment à ce niveau? Hein? Je ne devrais pas m'inquiéter. Et je commence à m'inquiéter de ce que je ne devrais pas m'inquiéter. Alors que fait le Seigneur quand nous nous inquiétons? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, rien. Ah, c'est intéressant. Le Seigneur ne fait rien dans un premier temps. Il nous laisse dans cette situation. C'est quelque chose, hein? Il nous laisse un peu mijoter et à feu doux. Au point que cette préoccupation sincère commence à devenir excessive, malsaine et stérile. Et au point que notre inquiétude commence à consumer notre énergie Et nous commençons à concentrer nos réflexions sur le moyen d'en sortir. Marthe a commencé à faire du bruit dans la cuisine, à ouvrir la porte et à crier: « J'ai besoin d'aide! Hein? Seigneur, est-ce que tu nous laisses comme ça? Tu ne te fais pas du souci? » Jean-Baptiste, eh bien, il a envoyé ses disciples aller dire à ce Jésus que ça ne va pas. Est-ce que c'est vraiment lui? Et les disciples d'Emmaüs, ça a été dit dans une prière, eh bien, ils avaient les yeux baissés. Ils regardaient le sol. Lorsque nous nous inquiétons, eh bien, Dieu nous laisse en point mort, comme s'il nous disait: maintenant, débrouille-toi. Et c'est intéressant de voir que Jésus n'a pas anticipé dans toutes ces situations. Psaume 121, on revient, verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et entre le verset 1 et le verset 2, vous voyez marqué trois points de suspension qui ne sont pas, bien sûr, présents dans le manuscrit original. Mais c'est une réalité. Dieu met un temps entre nos inquiétudes et sa réponse. Au livre des Proverbes, nous lisons Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable. Ah, version français courant. Alors, ça, c'est la version La Colombe, hein, que j'utilise souvent. Français courant, l'inquiétude le déprime. Alors, on pourrait enlever l'homme et rajouter l'homme et la femme. Il n'y a pas que les hommes qui sont inquiets, hein. L'inquiétude nous déprime et Parole de vie nous parle de découragement. Ça nous décourage. En réalité, nous voyons que nous ne maîtrisons plus rien. Et on se sent impuissant face à des éléments qui nous dépassent. C'était le cas d'Abraham. Abraham pouvait être inquiet pour sa descendance. Dieu lui a donné des feux verts, mais il commençait à se soucier de sa descendance. Et on voit quand même dans le livre de la Genèse que ça l'accompagne vraiment. Hein? Et Dieu a laissé Abraham combien de temps s'inquiéter à ce sujet? Ouais, 25 ans. Waouh! Ah. Isaac était inquiet de la situation de relation entre ses deux enfants. Jacob, le patriarche, sur la réalisation de la bénédiction, à tel point qu'il va tout mettre lui en œuvre pour réaliser cela. On pouvait voir Moïse inquiet de son appel. David, le roi, donc le futur roi, inquiet par rapport à Saül. Il y a là quelque chose de compréhensible. On connaît ces personnages, on se sent comme eux. Mais nous aurions aussi fait certainement la même manière, parce que nous appartenons à cette humanité. Annie nous a partagé un témoignage. Alors, elle a chronométré, bravo, 5 minutes. Hein? Je sais, j'y étais. Voilà. Mais ça, c'est pas vécu en 5 minutes. Vous auriez chacun un témoignage à raconter sur des sujets qui vous ont inquiété. Ça ne s'est pas résolu en quelques secondes, comme pour les disciples d'Emmaüs. Jésus a laissé le temps à ses disciples de s'inquiéter. Il a laissé le temps à ses disciples de nourrir cette inquiétude. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu n'est pas un dépanneur que l'on appelle au secours et qui vient avec sa caisse à outils. Ah. Dieu n'est pas. Vous savez, le service que vous pouvez appeler, et dans l'heure qui suit, ce service est chez vous en train de vous rassurer et de réparer ce qui ne va pas. En réalité, est-ce que nous aimerions avoir un Dieu comme ça, où il y a juste un numéro à faire et une intervention de sa part? Oh, certainement oui, parce qu'on serait vite rassuré. Mais imaginez, à chaque fois qu'il y a un problème, Dieu répond instantanément. Une prière, pas un exaucement. Un souci, pas une réponse. Hein? Une solution, un danger, voilà un remède. Là, le problème, c'est qu'on peut imaginer, par exemple, Marthe. Marthe qui sort de sa cuisine, hop, Jésus dit, c'est bon, on va tous se mettre au service. Hein? Jean-Baptiste, un ange lui apparaît. Hein? Abraham, il a Isaac, 9 mois après l'appel. Emmaüs, Jésus ressuscité, leur dit, hey, c'est moi. Hein? Ce matin même, notre témoignage ne nous parle pas d'un service ou de promotion d'Uber Eats. Nous ne sommes pas avec un système commercial qui doit répondre à nos soucis. Avec en plus un cadeau à la commande. Hein? Si Dieu fonctionnait ainsi, mon frère, ma sœur, où serait notre foi? Où serait notre confiance en lui? Où serait notre maturité spirituelle? Est-ce que nous apprendrions la patience ainsi? Donner à quelqu'un ce qu'il désire tout de suite, c'est la meilleure manière de l'empêcher de grandir en foi, en patience. Cette manière de faire, en fait, ne sait pas faire confiance. Un jour, il y avait un homme qui avait un gamin, il avait des projets pour son gamin, et il va l'inscrire dans une école qui dure 3 ans. Et son gamin était, bien sûr, intelligent, et il va voir le directeur, et il dit au directeur, écoutez, formez-moi cet enfant que je vous laisse, mais 3 ans, ça fait long. J'ai des projets pour lui. Formez-le en 6 mois. Cours intensif. Pauvre gamin. Le directeur a dit, écoutez, vous savez, 6 mois, ça donnera pas le même résultat qu'en 3 ans. Hein? Le père dit, non, non, vous pouvez y aller. Et le directeur dit, mais c'est une histoire vraie. Hein? Lui dit, écoutez, il y a une différence entre la croissance d'une courge et celle d'un chêne. Celle d'un chêne prend du temps. Si vous voulez que votre enfant soit une courge, laissez-le-moi. En 2 mois, ça sera fait. Hein? C'était pas sympa comme réponse, mais c'est une réponse tellement évidente. La vie d'Abraham est extraordinaire de voir comment c'était quand même un homme inquiet, mais qui a appris, étape après étape, à faire confiance à Dieu. Canaan, l'Égypte, voilà, Ismaël, Agar, ainsi de suite, jusqu'à voilà, à l'appel qui répond pour offrir son fils. Où serait notre notion d'appeler Dieu au secours si Dieu ne nous laissait pas, quelque part, mijoter dans cette inquiétude? Alors, cette semaine, on partageait ce verset en famille et je trouvais que c'était intéressant. Sur Ézéchias, regardez ce que dit la Bible dans 2 Chroniques 32, 31. Dieu l'abandonna. Ah bon? Oui, il abandonna Ézéchias pour, eh bien, pour l'éprouver afin de connaître ce qui était dans son cœur. Pierre Moulinego appelait cela le stress test. Il y a le crash test sur les voitures pour savoir ce qu'il faut améliorer. Et des fois, Dieu nous prend, il nous met dans une situation de stress pour savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. En gros, où en sommes-nous au niveau de notre maturité spirituelle? En général, c'est l'homme qui abandonne Dieu. Mais il arrive parfois que Dieu permette que nous connaissions ce type de test. Les parents font ce petit jeu, vous l'avez remarqué. Parfois, ils laissent leur enfant un peu seul et ils veulent voir comment cet enfant réagit. Nous, on faisait ça, hein? On les laissait sur une aire d'autoroute, on rentrait à la maison. Non, pas du tout, évidemment! Évidemment que non! Dans les grandes surfaces, on les laissait, hop, ne pas nous, voilà, ne pas nous trouver pour voir comment nos filles réagissaient. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas les affoler pour rien, mais leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin de nous, qu'ils ne peuvent pas s'aventurer comme ça, hein, en pensant que ben, tout ira bien tout le temps. Hein. Ça n'a pas toujours marché. Des fois, nos filles étaient contentes d'être un peu seules. Hein. Mon frère, ma sœur, si Dieu nous soulageait instantanément de toutes nos inquiétudes, nos relations seraient différentes avec. Notre conscience du danger serait faussée. Notre besoin de lui ne serait pas marqué. Et même notre joie après l'épreuve serait beaucoup moins intense. C'est pourquoi il est bon, dans les témoignages que nous entendons, de relever. J'étais inquiet. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà comment le Seigneur a agi. Parce que sinon, nous serions et nous deviendrions des enfants ingrats. Nous trouverions normal qu'à chaque situation, il y ait une réponse immédiate. Ça, c'est le comportement des enfants capricieux, hein, égoïstes. Nous serions des petits chefs, hein, exigeants, peut-être même des mendiants, plutôt que des enfants de Dieu. Le secours, dit le psalmiste, me vient de l'Éternel. Il n'est pas n'importe qui, il est celui qui a fait les cieux et la terre. Et il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voilà un homme qui a expérimenté l'action de Dieu par rapport à ses inquiétudes. Avant même que la situation s'arrange, il peut dire, Dieu me gardera, parce que lui ne sommeille ni ne dort. Il sait que Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Alors cette phrase va vous faire, avant de venir ça, on pensait à, vous savez, à Daniel. Lorsque les compagnons de Daniel étaient face, aux Babyloniens qui voulaient les jeter dans la fournaise ardente, quelle est leur réponse? On pourrait dire qu'ils auraient pu regretter une telle situation. Hein. Leur réponse a été celle-ci. Tous les trois répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de plier les genoux devant toi. Hein. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Si Dieu ne le fait pas comme nous l'entendons, eh bien, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Ils n'ont pas été construits en 2 jours, ces trois hommes-là, ces jeunes hommes. Cette fermeté dans la foi, cette maturité a pris du temps. Alors j'aimerais vous poser la différence entre ces deux mots. Alors, c'est peut-être un peu tôt le dimanche matin pour réfléchir. Hein. La différence qu'il y a entre croire ce que l'on sait et savoir ce que l'on croit. Bravo, Élie, t'as perdu la plupart des gens là. Bon. Wow, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Alors, cette question a été posée, hein? Est-ce que nous croyons ce que nous savons ou est-ce que nous savons ce que nous croyons? Alors, pour expliquer rapidement, croire ce que l'on sait, c'est le domaine de la science et de l'information. En gros, ce que je sais peut changer. Savez, les pueurs qui sortent. Qui était sorti dans les années 60 n'avait pas la même manière de faire que celle des années 80, que celle maintenant, etc. Le bébé doit dormir sur le dos, doit dormir sur le côté, doit dormir sur l'autre. Tout change. En fait, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois que l'on sait, on croit ce que l'on sait. Vous avez compris? C'est la science qui va, avec les nouvelles découvertes, m'amener à croire ce que l'on sait maintenant. Mais le domaine spirituel est tout autre. Le domaine spirituel, lui, m'engage à savoir ce que je crois. Ça veut dire que le domaine spirituel m'amène à des certitudes qui ne bougent pas. Les certitudes de la science changent. J'ai entendu il y a quelque temps que le principe d'Einstein, etc., n'est plus trop valable. Bon, moi, je ne connais pas déjà ce principe. Si on m'explique de nouveau, je comprendrai moins. Mais ils doivent savoir de quoi ils parlent. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça change. Mais l'autre problème, c'est que nous pensons que ce que nous avons découvert avec la science, nous allons photocopié sur Dieu. Mais Dieu ne change pas. Les affirmations de la Bible sont des vérités objectives. Ça veut dire qu'elles m'amènent à croire cela. Je sais ce que je crois. Il n'y a pas d'évolution. C'est intéressant quand nous avons des inquiétudes. Parce que la question, c'est pas est-ce que la situation a changé, est-ce qu'elle est différente? La vraie question dans les inquiétudes, c'est je dois savoir ce que je crois. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce qui est dans mon cœur affermi? Pour que je puisse dire, je peux compter là-dessus, Seigneur. Ainsi, Dieu permet que nous nous inquiétons pour apprendre et pour être affermis dans notre foi. Déjà, il nous apprend notre humilité. Nous, nous pensons dominer toute chose. Quand les inquiétudes arrivent, wow, on l'amène pas trop large, hein? On se fait petit, hein? Et puis, pour notre maturité spirituelle, un proverbe dit qu'une mer calme ne forme pas de marraine d'expérience. Oui, Dieu permet des situations. Il nous laisse parfois quelque temps dans l'inquiétude pour que nous puissions acquérir une expérience, afin que nous puissions dire, je sais ce que je crois. L'apôtre Paul le dit bien dans Timothée, hein? Il dit ceci, après une longue expérience de foi, Paul dit, voilà les souffrances que j'endure, hein, mais je n'en ai pas honte. Je ne suis pas inquiet de cela. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a, lui, la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Est-ce que tu sais ce que tu crois? C'est la question qui va déterminer ta réaction face à l'inquiétude. Ce que Dieu désire n'est pas de nous donner la force de porter les inquiétudes et les fardeaux. Ce que Dieu désire n'est pas de nous donner assez de courage face au découragement. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions apprendre avec lui. Ce matin, nous avons entendu un témoignage. Nous avons entendu des histoires de la Bible. En fait, nous voyons fréquemment ces étapes. Premièrement, il y a une difficulté. Et je m'inquiète. Deuxièmement, mais il y a Dieu au verset 2. Et troisièmement, l'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Il y a la proximité de Dieu. Et c'est ça qui va déterminer mon attitude face aux soucis. L'apôtre Paul l'a appris et le dit à sa manière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, agitez-vous. Non, pas du tout. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et je crois qu'il y a là ça va dans le même sens que le psalmiste. Qu'est-ce que je dois faire quand je suis inquiet? Quand mes yeux cherchent un secours, je dois me tourner vers Dieu pour avoir cette quiétude. Et vous savez, le chemin est long. Ce n'est pas juste un coup de baguette magique, hein? Pas toujours évident. Et avant d'arriver à cet état de calme, les hommes de foi ont compris qu'il fallait se tourner vers Dieu et s'approcher de lui. Il y a une série d'obstacles à surmonter. Vous savez, cette série d'obstacles, c'est notre esprit d'indépendance. Nous, on veut faire à notre manière. Hein? Ou alors, c'est la dureté de cœur. Hein? On s'entête dans une situation. Ou alors, il y a des doutes quant à la possibilité que Dieu puisse intervenir. On met en doute sa bonté, sa grâce et sa puissance. Et c'est ce que le psalmiste nous rappelle. Il rappelle ceci, verset 3, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Voilà, il te garde, celui qui il ne sommeillera pas. Il ne sommeille ni ne dort. Il te garde, il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Il te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'antidote à l'inquiétude, c'est notre proximité avec Dieu. Le psaume 65, 3 nous dit ceci: toi qui écoutes la prière. Mon frère, ma sœur, des fois j'ai l'impression que quand l'inquiétude s'abat sur nous, nous sommes tellement démunis que nous n'avons pas ce réflexe de prendre d'abord un temps précieux avec Dieu. Et je pense parfois que Dieu nous veut tellement à ses côtés qu'il va créer des situations de stress pour que nous puissions venir à lui. Nous pouvons dire que l'inquiétude devient anxiogène et stérile si elle ne prend pas le chemin de la prière. Et certainement, c'est ce que Dieu cherche, cette paix que nous pouvons obtenir en lui. Vous savez, ce psaume 121 a été un psaume chanté par Jésus, puisque Jésus était, il est dit qu'il chantait des psaumes, hein, se nourrissait de prières. Et un pèlerin fidèle chantait ce psaume. Et Jésus, en chantant ce psaume, savait à quoi il pensait certainement. Il pensait à la croix. Sur ce chemin qui le menait de Galilée à Jérusalem, il disait souvent à ses disciples: voilà ce qui va m'arriver. Et en pensant à cela, Jésus a pris sur la croix nos péchés, mais il a aussi pris sur la croix nos inquiétudes. Il sait toutes choses. L'inquiétude essaie de comprendre les problèmes. L'inquiétude spécule sur des solutions hypothétiques. La prière, elle, remet les problèmes et les solutions entre les mains de Dieu. Jésus nous a montré le chemin. Il nous en donne la solution. Il a payé le prix à la croix pour que mon âme soit rassurée par le fait qu'il me gardera et me gardera jusqu'à la fin. Alors, bien sûr, la Bible ne dit pas que je dois vivre dans l'insouciance et la naïveté. Ce n'est pas à cela qu'elle nous invite. La Bible nous met sérieusement en garde contre les efforts qui peuvent polluer et qui peuvent être destructeurs produits par l'inquiétude. Vous savez, ces préoccupations excessives. Oui, Dieu permettra encore des situations d'adversité dans nos vies pour que nous puissions apprendre, que nous puissions les saisir avec humilité pour notre maturité. Et je pense aussi par rapport à notre témoignage vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est important, hein, de voir comment le chrétien réagit quand des problèmes l'accueillent. Et je peux dire une chose, c'est que il y a des chrétiens qui ont vécu des situations absolument dramatiques. Et la force qui est en eux, c'est de dire, eh bien, qu'il y a une paix qui surpasse toute intelligence, comme dit l'apôtre Paul, qui vient habiter les cœurs. Alors, je vous laisse ce verset. L'Éternel gardera ton départ de ce culte, hein? Et il gardera ton départ comme il gardera ton arrivée. Quand ça? Pas aujourd'hui seulement, pas demain seulement, mais le gardera maintenant et à jamais. Alors peut-être ce matin, on peut se dire, oui, c'est vrai, c'est bien, Seigneur, j'ai appris, voilà, tout. Ouais, je suis là, j'ai entendu un témoignage, on a chanté, on a prié, on est tellement bien ensemble, on a mis nos inquiétudes de côté, je l'espère, hein? Mais comment est-ce on va repartir? Comment est-ce qu'on va réagir cet après-midi ou demain ou dans la semaine? Serons-nous écouter la voix de Dieu qui nous dit, viens à moi, partage cela avec moi, car moi je suis assez puissant pour d'abord mettre la paix dans ton cœur et pour agir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur, en ces temps où l'on sent beaucoup d'inquiétude autour de nous, hein,